micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour à tous et bienvenue à Micro-Ondes. Donc Micro-Ondes, une émission sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM qu'on peut réécouter en podcast sur le site du Tami www.le-tami.info et sur le site de radiocampusgrenoble.org. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, enfin plutôt la semaine dernière c'était une journée un peu spéciale puisqu'on était en direct de BAF les frontières, une journée du coup contre les frontières organisée à la BAF à Grenoble. Et l'équipe de Micro-Ondes a donc fait un plateau décentralisé à cette occasion. Voilà, simplement pour rappeler un peu donc cette journée BAF les frontières était du coup une journée qui a eu lieu donc samedi dernier, le 2 novembre. Et il y avait à cette occasion des temps d'écoute de témoignages de militants, ce fameux plateau radio, de la sérigraphie l'après-midi, un tournoi de foot, une projection et une écoute encore de témoignages de militants, suivi d'un débat dans la soirée, un concert de l'artiste Martial Panucci avec qui on va revenir discuter à cette émission, et enfin une boum. Tout s'est hyper bien passé malgré le temps pluvieux, et on se retrouve du coup cette semaine, on retrouve du coup les témoignages de personnes qu'on a interrogées la semaine dernière. Donc merci d'avoir pris ce temps-là encore avec nous à l'occasion de cette journée pour venir témoigner. Donc on a autour de la table Martial, Awa, Souleymane et Sabrina qui viennent parler de différentes choses. Et donc on vous avait déjà retrouvé la semaine dernière à l'occasion du plateau en direct, mais on sentait justement que c'était un moment assez court avec peu de temps de parole finalement pour chacun, chacune. On voulait vous proposer de revenir un peu plus avec un peu plus de détails, un peu plus de temps de parole pour nous parler de vos projets. Est-ce que du coup une personne voudrait commencer, par exemple, je sais pas, est-ce que Souleymane t'as envie de commencer un peu
Oui, nous parler. Oui. Bon, moi c'est Souleymane. Voilà, donc je voulais parler un peu de ma traversée pour l'Europe. Voilà. Donc, je suis arrivé au Maroc le 26 janvier 2019. Je cherchais à rentrer en Europe. Voilà, parce que chez moi, au bled, c'était chaud. Où on voulait me supprimer tout ça. Donc, j'ai pris la fuite. On voulait me tuer. Au fait, donc j'ai pris la fuite. Si je me retourne, je suis mort. Donc j'ai décidé à me battre pour rentrer en Europe, même si je reste dans l'eau, au moins j'ai essayé de me battre. Donc c'est pour ça que je suis venu au Maroc. Bon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Donc quand je parle, j'ai le trac, tu vois. Voilà. Donc arrivé au Maroc, j'ai fait un mois. J'ai cherché un peu le réseau. Comment il faut traverser la mer pour arriver en Europe. Donc du coup, j'ai eu un réseau de migrants qui m'ont accompagné chez les passeurs, où j'ai payé 2000 euros, voilà, pour ma traversée. Donc, on a pris un Zodiac qui pouvait prendre 80 personnes. Mais on était 150 personnes dans le Zodiac. On a pris la mer. Trois heures après, le Zodiac s'est percé. Quand ça s'est percé, le Zodiac s'est renversé. Tout le monde était à l'eau. Bon, moi étant... Bon, je savais nager un peu. Je me suis débrouillé pour m'accrocher un peu. Et il y a plein de gens qui mouraient devant moi dans l'eau. On était là, on a fait presque une heure et la marine marocaine est venue pour venir nous sauver. Mais quand ils sont arrivés, au lieu de nous sauver, ils ont attendu pendant une heure. Ceux qui étaient à l'eau, ils ont attendu pour qu'ils meurent d'abord. Et ceux qui sont restés vivants, on les a pris pour aller les jeter dans le désert vers Mauritanie, où je faisais pas mis.
En plein désert, du coup?
En plein désert, sans manger, sans l'eau, sans rien. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des enfants et des hommes. Donc c'est comme ça, on s'est débrouillé pour se retourner encore vers le Maroc, parce qu'il y avait plein d'aidants qui ont fui le pays à cause de la guerre. Et d'autres, bon, je ne sais pas. Mais si jamais tu te retournes dans ton pays, c'est la mort. Donc tu es obligé de... Bon, pour moi, c'était le cas. Donc je dis non, je n'aurai pas. Même si je mets dans l'eau, au moins j'ai essayé. Donc je suis reparti au Maroc. C'est dans mon... Dans ma deuxième traversée, je suis rentré en Europe le 23 février. Quand je suis rentré en Espagne, la police m'a pris, ils m'ont posé des questions et ils m'ont gardé pendant 2 semaines. Et le 11 mars, je suis rentré en France.
Et pendant tout ce temps en Espagne, tu as été du coup arrêté par la police, entre guillemets, tu étais dans une prison, dans un lieu fermé?
Ouais, un lieu fermé. Mais ils s'occupaient bien de nous. On était bien, bon, on nous a traités, nous soignés, tout ça, nous poser des questions. Et puis bon, après, lui qui voulait demander l'asile en Espagne, il avait l'autorisation de demander l'asile. Et lui qui ne pouvait pas, il fallait qu'il dise et puis on le libère. Donc c'est comme ça, moi, j'ai dit non, je ne veux pas demander l'asile en Espagne parce que je ne comprends pas l'espagnol. Même si tout de suite tu me dis en espagnol, allons, je vais te tuer, je vais te suivre. Parce que je ne comprends pas l'espagnol. Mais si tu me dis en français, allons, je vais te tuer, je sais de quoi tu parles. Là, je ne vais pas te suivre. Donc, je ne peux pas demander l'asile en Espagne. Je préfère la France. C'est pourquoi ils m'ont laissé venir en France.
Le voyage a duré combien de temps? Le trajet a duré combien de temps? Depuis le moment où tu es parti de ton pays?
Ça a duré 1 mois, 2 semaines. 2 semaines. J'ai fait 1 mois au Maroc. De mon pays, chose au Maroc, j'ai pris 2 semaines. Et au Maroc, j'ai fait 1 mois. Et la traversée, j'ai pris 5 heures pour être en Espagne.
Sur la route, est-ce que justement, du coup, tu arrives à Grenoble, notamment à un moment, et assez vite, tu rentres en contact avec des réseaux de lutte et on se retrouve ici sur une journée de lutte. Ouais. Est-ce que sur la route, tu as rencontré justement d'autres lieux de lutte, d'autres collectifs ou bien des gens qui t'ont aidé?
Ouais. Quand je suis quitté en Espagne, à la rentrée de la France, j'ai croisé un groupe, un collectif, je veux dire, voilà, qui m'ont accueilli, qui m'ont envoyé dans un camp où ils m'ont logé, ils m'ont donné la nourriture, tout ça. Ils m'ont donné un papier qui m'aidait à comprendre mes droits, tu vois. Voilà. Donc c'est comme ça, le lendemain, ils ont payé mon billet et j'ai pris un quart pour faire direct à Grenoble. De Maroc, de mon bled jusqu'au Maroc, Espagne, je n'ai pas croisé de collectif comme ça.
Et est-ce qu'avant le départ, tu avais entendu parler ou tu t'étais renseigné justement sur des gens, tu avais des contacts sur la route ou bien tu t'es dit je sais dans quelle direction je vais et...
Non. Je n'avais même pas de contact en Europe ici. Je connais personne en Europe. Donc quand je suis arrivé, à Grenoble, c'est là que j'ai commencé à connaître des associations qui se battent pour notre cause, tu vois. La première fois que j'ai croisé une association, c'était à la gare, où on se faisait contrôler par la police tout le temps. Parce que quand je suis arrivé, ça la gage de dormir. Donc à chaque fois qu'on se réveille, comme il y a le wifi, on partait se connecter, tout ça. Donc la police, ils venaient tout le temps pour venir prendre ceux qui n'ont pas de papier, tu vois. Ceux qui n'avaient pas de papier, on les prenait. Et puis ensuite, on les balançait, je ne sais pas où. Voilà. Donc c'est comme ça. Une fois, ils étaient en train de nous contrôler. Et il y a un groupe de la BAF qui passait. Qui nous a vus, ils sont en train de nous contrôler. Ils se sont approchés pour dire à la police, mais on vous a remarqué, vous êtes en train de contrôler seulement que les blacks. Mais pourquoi vous ne contrôlez pas les Blancs, là? C'est là, la police dit, on est en train de faire notre travail, donc vous nous laissez. Donc ils ont mis un peu de pression sur la police, et la police nous a laissé tranquilles, ils sont rentrés. C'est comme ça, et ils m'ont donné leur contact pour dire qu'il y avait une réunion les mardis, de venir écouter un peu. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu que vraiment ça parlait de nous, et qu'il faisait beaucoup vraiment pour les migrants, et le racisme aussi, tu vois. Donc du coup, je me suis senti concerné depuis ce jour. J'ai plus laissé la BAF, quoi. À chaque fois, quand j'ai un petit temps, quand il y a une réunion, je suis à la BAF.
Ok. Est-ce que autour de la table, vous voulez poser des questions à Souleymane?
Non, mais déjà, merci de Souleymane pour ton témoignage, d'avoir partagé cette histoire avec nous. Et moi, ça me touche énormément.
Merci
d'avoir partagé ça. Ouais.
Moi, j'avais une dernière question. Du coup, tu as posé ta demande d'asile en France. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ok. Bon, quand je suis rentré, une semaine après, ils m'ont montré un peu comment, où on demande l'asile, tout ça. Parce que j'étais un peu perdu, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui m'a accompagné à date. Et c'est comme ça que j'ai fait ma demande. Ils m'ont posé des questions si j'avais demandé demande d'asile en Espagne. J'ai dit non. Donc, ils ont essayé de fouiller un peu. Mais ils m'ont posé des questions. Pourquoi je suis quitté dans mon pays pour rentrer en Europe, tout ça. Et bon, c'est comme ça qu'ils ont pris mes empreintes, tout ça. Et puis, ils ont validé. Mais du coup, ils m'ont mis sur Dublin, hein.
Oui.
Voilà, ils m'ont mis sur Dublin parce que j'ai passé par l'Espagne. Voilà.
Tu peux raconter justement un peu ce que c'est que Dublin et c'est
voilà.
Quoi les conséquences pour ta demande d'asile?
Voilà. Bon, quand ils m'ont mis sur Dublin, c'était la première fois que j'attendais ce mot-là. Donc, j'ai posé des questions et on m'a dit non. Au fait, le Dublin, c'est quand tu quittes dans ton pays, le premier pays où tu rentres en Europe, c'est le pays qui doit te donner l'asile. Voilà. Si le pays te refuse, eh bien soit tu n'as pas demandé d'asile là-bas, tu as passé sans prendre empreinte, nous, automatiquement, on peut se charger de toi. Mais déjà, ton empreinte est là-bas, donc c'est là-bas que tu dois demander l'asile. Mais comme tu es en France, on va appeler en Espagne, tu as 6 mois ici, on va appeler en Espagne, si on ne répond pas, on te prend en compte. Donc c'est comme ça, j'ai attendu les 6 mois à chaque fois que je partais signer à Lyon. Chaque mois, je vais signer à Lyon. Du coup, la 4e fois quand je suis allé, la dame me dit « Souleymane, t'es plus sur Dublin, t'es si normal.
Okay. »
Ah ben, j'étais surpris, il dit « Sérieux ?» Il dit « Bien sûr, t'es si normal. Tu viens plus signer à Lyon, tu vas à la préfecture de Grenoble maintenant. » Je dis « Ah, ok. » Donc c'est comme ça, je suis normal, ça fait 2 mois maintenant.
D'accord. Ça veut dire quoi, normal?
Normal, ça veut dire ils n'ont plus le droit de m'envoyer en Espagne. Voilà. Donc, c'est ici que c'est la France qui me prend en compte à partir de ces jours-là.
Et du coup, il peut te poser sa demande d'asile en France?
Voilà.
Tu l'as fait?
Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Par rapport au logement, l'OFI. Voilà. Parce que quand tu demandes l'asile, c'est l'OFI qui s'en charge de votre hébergement, tout ça. Voilà. Donc, à chaque fois, quand tu vas voir l'OFI, il t'enregistre. Moi, je me suis fait enregistrer, ça vaut plus de 10 fois. Mais jamais de maison. Donc, je dormais toujours dehors. C'est grâce à la BAF, j'ai eu un toit aujourd'hui où je dors.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en demande d'asile, l'OFI est obligé de vous loger.
Voilà.
Ce qui n'est pas le cas, du coup, dans ce que tu nous racontes.
Voilà, justement. Bon, ils le disent, mais ils ne le font pas. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein qui dorment encore au dehors. Demandeurs d'asile que je connais, qui dorment encore au dehors. Même quand tu vas à la gare tout de suite, tu vas avoir plein de gens qui sont assis.
Tu veux parler, Awa?
C'est Awa, la sœur de Babacar Gueye, qui fut tuée, assassinée par la police à Quartier Maurepas à Rennes. Je suis venue à Grenoble pour une organisation d'immigrants et contre les frontières samedi dernier. Et là, je suis là encore. Parce que les organisations, c'est important pour nous. Et c'est pour ça qu'on était là, pour participer. Il y a 2 semaines, j'étais à Berlin aussi, participer des événements internationaux là-bas. Et voilà, et moi, mon combat, c'est par rapport à mon petit frère Babacar, qui avait 27 ans, qui s'est assassiné par la police quartier Morpa à Rennes. Babacar, il avait 27 ans, on vivait ensemble avec mon fils. Et ce qui s'est passé le 3 décembre 2015, Babacar, il est parti chez son ami, et il avait une crise d'angoisse. Ses amis sont appelés les pompiers, c'est la police qui sont venus et ils sont tirés sur Babacar 5 balles. Il a reçu une balle dans les fesses gauches et 4 balles sur les côtes, les 2 côtes et en haut son corps. Et les policiers, il a dit que c'était une légitime défense. Et j'ai demandé une expertise balistique et l'expert, il a révélé aucune balle, il n'a pas venu en face de Babacar. Et ils ont détourné les armes qui sont utilisées sur Babacar aussi. Et là, Babacar, le moment qu'il a reçu les 5 balles aussi, ils ont monoté Babacar pendant 1 heure au sol. Et la veille, les policiers, ils ont porté, plus la police qui a tiré sur Babacar 5 balles, il a porté plainte contre Babacar qui est déjà mort, qui s'est pris témoigner. Et les autres 3 policiers qui ont fait des témoignages différents sur Babacar. Mais j'ai compris parce que eux, c'est système automatique qu'ils sont habitués à faire sur les victimes. Et nous, on subit aussi des pressions, nous, les familles victimes. Et ça, ce n'est pas normal. Et voilà, la liste est longue. Moi, je n'ai jamais pensé que ça peut arriver sur moi. Et parce qu'avant, je vois que les victimes par les policiers. C'est beaucoup. J'étais tout le temps triste quand je vois ça ou d'attendre ça sur les radios ou sur les télés. Mais quand ça m'arrivait, j'y arrive pas à croire que c'était ça. Donc du coup, le combat, ça concernait à nous tous. Parce que ça peut arriver à nous, l'un de vous, des autres, voilà, comme les autres. C'est pour ça qu'on est mobilisés, nous, les familles victimes, et aussi des plaintes collectives qui luttent contre les violences policières. Et voilà.
Différentes familles de victimes qui luttent, qui ont porté plainte ensemble, c'est ça que...
Non, bah, chacun a son histoire. Ouais. Et aussi, mais aussi, je dis ça parce qu'on se portait soutien.
Okay.
Voilà, on se portait soutien parce que moi, j'étais seule, la famille, en France. Et Babacar, il a décidé à me joindre en France pour aussi à travailler, à aider sa famille. Il a fait clandestin, il a passé par Mauritanie aussi et au Maroc. Il était à Malaga, il a fait 2 ans à Malaga, il faisait ambulant. C'est une personne toujours active. Quand il est arrivé en France, il a fait 1 an avec moi. Mais avant 1 an, automatiquement, il m'a demandé que ah ouais, j'aime bien, tu m'as inscrit dans les mêmes clubs que ton fils, que je fais les foot. C'est un club qui s'appelle Aubéry. C'est Cirque Paul Bert à Rennes. Et il faisait foot. Il prend des cours français parce qu'elle est comme moi, il ne parlait pas bien français. Et il faisait sport aussi. Voilà. Et il commence à donner les gens cours de danse dans un centre social qui est à Rennes. Voilà. Et il n'est jamais resté sans rien faire. Et chaque fois qu'il sort aussi, il me dit où il va. Voilà, et parce que même le jour de sa mort, on était passé en journée ensemble, il me disait, c'est mon ami sénégalais. J'ai dit d'accord, après il est parti. Et quand on l'a tué aussi, j'ai subi les pressions avec les policiers et aussi avec les juges de session. parce qu'ils disaient c'est sûr. Quand je leur dis que pourquoi les policiers sont nombreux, ils n'ont pas maîtrisé mon frère. Parce qu'il fait du mal à lui, il n'a pas fait du mal à personne. Il m'a répondu, vous savez, votre frère, il est musclé, c'est pour ça qu'on l'a monté. Et ce qu'on dit ici, tout qu'on a dit ici, vous n'êtes pas droit de dire ça d'or, parce que sinon ça risque de tourner sur vous. Et les policiers aussi, ils sont fouillés, c'est moi. Comme si que Babacar, je sais bien les systèmes ils sont faits, parce que les manières qu'ils sont fouillés, c'est moi, je n'attendais pas ça. On m'a demandé son pièce d'identité. Je crois que c'est juste eux, ils prennent les pièces d'identité, ils sont fouillés, c'est moi.
Et moi, j'ai une question. Du coup, j'imagine que vous avez porté plainte. Où ça en est en ce moment
Pour les premières plaintes que j'ai portées avant, j'ai ramené le corps de Babacar au Sénégal. Le premier avocat, il n'a pas déposé les plaintes au parquet. Et aussi, parce que le premier avocat, c'est le consulat du Sénégal qui est à Havre, qui est venu me voir à Rennes, qui m'a fait croire que laisse-nous, on fait une enquête et contre autopsie avant tu ramènes Babacar, maximum 15 jours. Par respect, j'ai accepté ça. Et fin de compte, ils ont profité parce que moi, je ne sais pas lire écrit. Et j'étais arrivée mai 2013 en France. Babacar, il est arrivé 2014. Donc, ils savaient ça. Et moi, dans mon dos, ils ont profité de ça. J'ai ramené le corps de mon frère. Je crois que tout est fait. Il n'y a rien qui est fait. En retournant ici en France, j'ai découvert que les dossiers les classaient sans suite. Et après, j'ai changé un avocat. Et après, j'ai demandé... c'était compliqué avec le deuxième avocat. Après, j'ai pris un troisième avocat avec par des soutiens. Et du coup, avec le troisième avocat que j'ai demandé une expertise balistique qui a révélé qu'aucune balle n'a pas venu face de Babacar. Et ils ont détruit les armes qui sont utilisées sur Babacar, qui sont disparaites. Et si et c'est pas là, s'ils ont raison, je pense que les armes, ils sont pas droits de disparaître. S'ils ont raison, les policiers qui ont assassiné mon frère, on ne va pas le muter ailleurs. Pourquoi on l'a muté ailleurs? Pourquoi les armes, ils sont détruites? Pourquoi ça? Moi, je ne sais pas lire et écrire. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas bête. Je sais à quoi tu parles. Babacar, si elle était blanche, on ne le tue pas. On va le maîtriser. 8 policiers, tu te rends compte? On va le maîtriser, on va le ramener à l'hôpital. Après, ils ont ouvert une enquête. Pourquoi il se mutile? Pourquoi elle est comme ça? Mais ce n'est pas le cas de Babacar. C'est un racisme d'État. Ça, c'est un racisme total. Parce qu'elle est noire. Ils ne sont pas, même pas perdre le temps de négocier pour le maîtriser. Ils ont tout qu'il faut pour le maîtriser.
Et juste du coup pour faire un peu le lien avec le témoignage de Souleymane qui parlait aussi des contrôles aux faciès à la gare, etc. Est-ce que à Rennes, au-delà de cet assassinat, tu constates aussi une attitude spécifique des policiers, des contrôles aux faciès, beaucoup plus d'injures, etc. dans ce quartier-là ou au quotidien?
De toute façon, par rapport à Souleymane, je sais que ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que j'ai raconté une copine qui a subi ça, qui a passé par Libye, oui. Qu'ils ont vraiment fait des choses que ce n'est pas possible sur eux. Ils profitent les femmes, et ils sont vraiment à souffrir. J'ai pas même pas envie d'expliquer précisément comment ils ont utilisé les femmes là-bas parce que c'est dégueulasse, quoi.
En France, est-ce que toi, tu vois ce racisme d'État
en... Ah oui, en France, c'est racisme total. Ça, c'est total. Parce que pourquoi les immigrants? Pourquoi les cafés qui viennent chez nous, ce n'est pas immigrants? Pourquoi les cacahuètes qui viennent, les cacaos qui viennent chez nous, ce n'est pas immigrants? Pourquoi les l'or et l'uranium qui viennent chez nous, ce n'est pas immigrants? Et nous, les humains, on nous voit physiquement. Quand on est des immigrants, pourquoi le pétrole, c'est pas immigrant? pourquoi tout ça? Donc c'est quoi ce délire? Nous, quand eux, ils viennent, c'est nous, on acquiert eux comme des reines et des rois. Et nous, quand on vient ici pour lutter, pour mener notre vie, on nous tue comme des mousses. La France, ça nous appartient, on essaie, nous. Ici, c'est nos grands-parents qui sont creusés les rails et les tunnels. On essaie, nous. On a des droits ici, les droits qu'on a ici, on doit nous le donner.
Sabrina ?
Oui, je voulais ajouter juste, ben, tu l'as très bien dit en fait, de toute façon tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qui se passe, ce soit à l'extérieur, à l'intérieur du pays, c'est la suite directe de 5 siècles d'esclavage et de colonisation. Et clairement ça peut pas, il faut que tout le monde l'ait en tête, que ce soit lucide en fait. Il faut que tout le monde soit lucide sur cette question-là. Parce que les gens sont endormis en fait. L'opinion publique, elle est endormie dans les médias à base de propagande tous les jours. En ce moment, c'est sur les musulmans. Voilà. Précédemment, c'était les juifs, les italiens, etc. Et il faut vraiment, mais tout le monde se rende compte que ce qu'on vit actuellement, si nos ancêtres ont souffert, si on souffre aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et en fait, c'est pas possible. On peut pas souffrir comme ça. On peut pas continuer à souffrir comme ça. On est fatigué. Et il faut que l'opinion publique se lève. Il y a que comme ça qu'on peut faire changer les choses. Donc là, je voulais juste ajouter, on a été en Allemagne la semaine dernière. On a été invité à Berlin. Il y a 40 collectifs. Qui luttent en Europe, dans différents pays qui étaient là, donc qui se lèvent contre les frontières, contre les violences, les crimes policiers, les crimes d'État. Et on a créé en fait une commission indépendante pour lutter en parallèle de leur justice, en parallèle de leurs médias et de leur police, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était... Enfin, là, voilà, toutes les familles qui se battent, ça, systématiquement, elles obtiennent des non-lieux où il y a quelques policiers qui sont jugés, mais condamnés, coupables, mais ils ne vont pas en prison. Donc voilà, on a décidé de s'organiser indépendamment de cette justice, indépendamment de toutes ces structures-là. Et on a commencé à constituer un réseau international. Voilà, l'idée, c'est de partager les réseaux d'experts, les réseaux d'avocats, mener des campagnes internationales et voilà, mettre la pression de l'extérieur, parce qu'en fait, dans chaque pays... On se rend compte que quand on va à l'extérieur, en fait, les autres personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe, ou pas forcément au courant de toutes les affaires, de tout ce qui arrive exactement. Et alors qu'en fait, c'est exactement les mêmes procédés qui ont lieu, c'est exactement la même impunité qui a lieu, la même criminalisation des familles. Voilà. Donc on a décidé de s'organiser collectivement. Et je voulais ajouter aussi, donc, pour la date qui est...
De la marche de...
Voilà. Il y a une date importante, donc, à Rennes, le 7 décembre, et on invite des personnes de Grenoble à monter en soutien au collectif Vérité et Justice pour Babacar. C'est super important vraiment que l'opinion publique se mobilise, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire changer les choses. Il ne faut pas avoir peur, en fait, si on est là, si on est présent. C'est comme ça que ça peut basculer, il n'y a pas d'autre moyen. Donc on appelle à rejoindre la marche le 7 décembre. Il y a un départ collectif qui va se faire de Grenoble. Si les personnes qui veulent rejoindre la marche peuvent contacter donc l'adresse justicepourbabacar@riseup.net, et j'imagine qu'il y aura une communication aussi sur la page Facebook du collectif. Voilà. Et ensuite, on appelle aussi à signer l'appel pour cette marche là qui est disponible sur place ici.
Merci, on va faire une petite pause musicale. Alors le titre, c'est Mort à la France-Afrique. Et Martial, tu nous expliqueras ensuite, après la chanson, pourquoi tu as choisi cette musique-là.
Yo, yoga, hey. Du Niger à Madagascar, la galère est la même. Des deux Congos à la Côte d'Ivoire, nos richesses sont les mêmes. Y a-t-il un homme pour me dire quel péché avant nos commis? Y a-t-il une femme pour me dire quel sacrifice avant nos omis? Amis d'un jour, ennemis d'une nuit, c'est ce que sont nos bienfaiteurs. Amis d'une mort, ennemis d'une vie, c'est ce que sont nos dictateurs. Amis de la guerre, ennemis de la paix, c'est ce que sont les vendeurs d'armes à l'ONU qui complotent avec des dirigeants mal élus. Du Nigeria au Botswana, les avancées sont les mêmes. Personne n'est dupe face à la récurrence. l'endurance de la guerre à l'est de la RDC, ça doit cesser. Je suis béni, je suis Katanga, mais je saigne encore et je saigne aussi dans le pool. Pays riche, au peuple pauvre, c'est ce que sont nos copies d'État. 2019, soyez les bienvenus, c'est la vendetta qui armée, ça sous le ghetto face aux 400 000 morts de son coup d'État. Si ce n'est la France de Chirac et Jacques Foccart. 1993, j'ai perdu mon enfance. 1997, au Congo de mes ancêtres, j'ai dû vivre l'enfer. 1994, le Rwanda avait déjà trop souffert. 2019, on vient remettre les pendules à l'heure. Allez, sonnez, 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 sonnez la vendetta. Mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. Yoga, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, en passant par Mitterrand, Chirac et Sarkozy, rien n'a changé, et je répète, ça donne envie de se venger. Aéroport d'Antananarivo au lundi 5 novembre 2018, un Ivoirien se fait expulser pour avoir eu l'indécence de dénoncer l'occupation française dans les îles éparses. Terre, c'est au malgache, spolié en plein 21e siècle. Peut-on me dire ce que cela signifie? Amis à double face, partenariats à deux vitesses, ça a toujours été ainsi. Charles de Gaulle luttait contre l'occupation allemande, mais il occupait des territoires entiers en Afrique. De Gaulle luttait contre les forces du mal nazi, mais il réprimait dans le sang les révoltes en Afrique. C'est le cas des guerres d'indépendance au Cameroun comme en Algérie. Y'a pas de coopération france-africaine. Il n'y a qu'un marché de dupes qui court depuis des siècles pour installer des dictateurs au pouvoir. Tant qu'il n'y aura pas de réparation, tous les démons de la France-Afrique n'entendront plus que des grognements. Ce n'est plus le temps des lamentations. Levez-vous, soyez prêts et déterminés avant que la plantation ne brûle. Levez-vous, soyez prêts et déterminés avant que les dernières plantes ne brûlent. Yoga, j'ai dit, sonnez, sonnez la vendetta. Mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique.
Yeah, c'est le temps de la libération totale. C'est le temps de la lutte finale. Parce que les choses doivent changer. Réparation et liberté. Martial Banoje, Malamae, Yoga, Yoga, yeah. La mort aux Français va. La mort à la France, Afrique.
Et on est donc toujours sur l'émission Micro-ondes et sur Radio Campus Grenoble, le 90.8 FM. Une émission du coup un peu spéciale, puisque on avait donc une émission la semaine dernière en direct de la journée BAF les frontières, donc une journée contre les frontières qui avait lieu à la BAF à Grenoble. Et à cette occasion, justement, on a pu proposer à d'autres militants un peu de témoigner un peu plus et d'avoir un peu plus de temps pour échanger avec nous. Et on reprend du coup là ce plateau avec Martial Panucci. Donc d'abord, peut-être si tu veux nous présenter le morceau qu'on vient d'écouter, pourquoi tu l'as choisi et qu'est-ce que tu veux dire à travers ce morceau.
Déjà merci et bonjour à tout le monde. Ben, ce titre, moi je l'ai fait il y a un an. Il y a un an, parce que ça figure dans mon dernier album qui s'intitule Hashtag sur les chemins de la révolte. Et mort à la France-Afrique, parce que moi j'ai commencé à militer au Congo. J'ai commencé à militer au Congo, et quand il s'est agi en 2015 d'un éventuel changement illégal de la constitution par le dictateur qui règne au Congo depuis 35 ans maintenant, donc Sassou Nguesso, la loi ou la constitution du Congo lui interdisait clairement de briguer un troisième mandat. Et il a sorti la milice, et il a tiré sur les gens pour que les gens aient peur et restent chez eux, afin qu'ils puissent faire ce référendum et briguer un troisième mandat. Mais curieusement, avant, avant le 25 octobre 2015, qui était la date choisie pour ce référendum illégal, il y a eu l'intervention de François Hollande, donc la veille, pour dire que Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple. Mais là, ça se passe en pleine manif et en pleine répression au Congo. Les gens sont dans la rue pour dire non au référendum, non à un troisième mandat de Sassou. Et à la surprise, bon, enfin, pour nous qui étions avertis, on n'était pas très surpris, mais pour la grande majorité de la population, les gens étaient surpris de voir que François Hollande donnait un quitus à un assassin comme Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat, alors que c'est un monsieur qui fait couler le Congo jusqu'à aujourd'hui. Et moi...
Et toi, tu dis, vous n'étiez pas surpris, pourquoi justement ?
Parce que ce monsieur avait été ramené au pouvoir par un coup d'État en 1997. Il a été armé par la France à travers le biais de Elf. Si vous avez entendu parler de la fameuse affaire du procès Elf, bah c'est, ça s'est passé au Congo. Et ce coup d'État, il a duré en fait de 1997 à pratiquement fin 2000. Puisque quand il reprend le pouvoir, il faut continuer à régner par la peur. Et les populations civiles sont poursuivies jusque dans les forêts. Et ça va durer. C'est un coup d'État qui fait près de 400 000 morts dans un pays de 3 millions d'habitants à l'époque. Donc ça, c'était plus du dixième de la population du pays. Et ce quitus donc qui intervient en 2015 nous rappelle en fait que la France était bien présente dans les affaires du Congo et qu'elle continuait bien à en tirer profit et que Sassou Nguesso, qui servait les intérêts de la France, méritait bien le soutien de François Hollande. Donc c'est pour ça que je disais, nous n'étions pas surpris. Du coup... Plutôt que de lutter contre la dictature au Congo, sachant qu'elle est soutenue par la France, moi j'ai commencé à hausser la voix contre la France-Afrique. C'est pour ça que je compose premièrement en 2017 un titre qui s'appelle aussi France-Afrique. Et maintenant en 2018, l'album est sorti en 2018, donc le titre « Mort à la France-Afrique » pour appeler à la fin de ce système, parce que ce système... date de Charles de Gaulle ou bien avant même de l'esclavage à la colonisation jusqu'à aujourd'hui, ce système continue à exister. Il y a aujourd'hui des bases militaires françaises sur le continent africain dont la mission n'est autre que d'assurer le bon fonctionnement des multinationales qui sont sur place et de faciliter le pillage des ressources. Et ça, nous le remarquons et on appelle à la mort de ce système. C'est pour ça que je compose « Mort à la France-Afrique ». Donc c'est plus pour appeler à la fin d'un système ou à la mort d'un système qui continue à faire que les richesses soient pillées, que les gens soient tués, que des populations soient violées, que les lois soient complètement bafouées, sous le regard, bien entendu, de la France qui s'ingère et qui continue à tirer les ficelles. C'est pour ça que je compose « Mort à la France-Afrique ».
Et je rebondis encore sur cette phrase de dire « Nous, on n'était pas surpris, mais la population a été surprise », entre guillemets. Est-ce que, justement, tu as l'impression que ce que tu racontes, comment dire, à quel point les gens le savent ou à quel point il y a ce travail de répandre cette information, y compris au Congo ?
Bah oui, le truc, c'est que moi, je suis un artiste et ce que je sais faire le mieux, c'est chanter. Et si je le fais, je le fais surtout pour donner de la voix à cette lutte qui peine à avancer parce qu'en face, il y a comme des rideaux de fer. Il y a tous ces médias-là qui profitent du système et qui ne permettent pas aux voix de ceux qui pensent, qui veulent tirer la sonnette d'alarme ou qui veulent informer d'autres personnes pour savoir regarder ce qui se passe sur le continent ou regarder ce qui se passe réellement entre les rapports entre la France et l'Afrique. Donc c'est pour informer les gens et plus de gens. Et plus nous serons informés, mieux nous serons aguerris pour pouvoir mener ce combat jusqu'au bout. Donc c'est aussi une mission pour informer les gens, pour que les gens prennent conscience. Parce que même quand j'arrive en France et que je parle de France-Afrique, il y a des gens qui sont surpris, qui me disent « mais c'est pas possible, ça ne doit pas, ça ne devrait pas exister » ou ça. Ils n'en reviennent pas. Donc je me dis que je dois continuer à passer ce message partout où je passe, parce que c'est très important pour que les gens ne disent pas quand les choses... Parce que certaines personnes sont surprises de voir les gens débarquer ici. Mais si la France va foutre la merde en Afrique, nous, on vient ici, parce qu'ici, c'est ici où viennent les richesses, c'est ici où c'est plus calme. Donc, c'est pour appeler vraiment les gens à informez-vous de ce qui se passe, parce qu'il ne suffit plus aujourd'hui d'aller mettre un bulletin dans l'urne et puis aller croiser les bras. Il faut suivre ce que les politiques font ailleurs. Parce que la politique française en Afrique, elle est vraiment exécrable. Ouais. Donc, du coup, c'est pour informer les gens, pour que, quand ça va péter, que les gens ne disent pas qu'on n'était pas au courant.
Super. Les auditeurs, en tout cas, de la radio seront informés maintenant. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas.
Donc, pour ajouter, c'est juste une manière de dire qu'il faut maintenant contre-population. Parce que moi, je sais, je connais plein de Français qui ne sont pas dans ce schéma-là, mais ils ne sont pas assez. La grande majorité de la population ignore où elle est droguée par les médias officiels. Mais il faut que les gens commencent à chercher et à s'impliquer dans la chute de ce système. Parce que c'est un système qui se passe entre les officiels français et des dirigeants corrompus sur le continent. Donc il faut qu'on arrête ça et qu'on arrive à un vrai rapport d'échange. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est là, elle est remontée à bloc. Et ça risque de mal tourner si on ne prend pas des précautions. Il faut qu'on arrive entre populations à faire que les rapports entre le nord et le sud et vice-versa soient des rapports humains, des rapports d'égal à égal. On ne peut plus continuer avec ce système de prédation alors qu'on est tous des humains et que l'Afrique en général, elle ne refuse pas de partager ses richesses. Mais les gens viennent pour piller de force. Parce que quand on vous impose le prix avec lequel on achète vos matières premières, c'est du vol. Quand on vit, ça encore, c'est quand on a compris que bon, c'était un peu plus flagrant plutôt d'aller prendre de force. Maintenant, on va donner un peu d'argent, mais c'est rien vis-à-vis de ce qu'on fait. Parce que le coup d'État dont je parlais de 1997, c'est quoi? C'est jusqu'à un moment, ce président qui a été élu parce qu'il y a eu un premier soulèvement au Congo en 1990, qui a abouti à une conférence nationale qui a amené une élection, la première démocratique du genre dans le pays, et Sassou Nguesso a été battu aux élections. Et 5 ans après, la France décide de l'armer, les armes venaient par les bateaux pétroliers de Elf jusqu'au Congo. On l'arme pour tuer des Congolais afin que la France continue à piller le pétrole congolais, sans parler de l'or, du bois. Donc, Pascal Lissouba, qui arrive au pouvoir en 92, dit à Total, mais Elf à l'époque, mais quand même, 15% pour des revenus pétroliers, on ne sait même pas encore combien vous exploitez, il faut quand même revoir ça. Et c'est là où on décide de faire un coup d'État parce que monsieur veut du bien pour sa population. Mmh. Et ça en a été de même pour Thomas Sankara au Burkina, qui voulait que voilà, les rapports entre la France et le Burkina Faso soient des rapports d'égal à égal et non de colonisés à colons. Mmh. Mais voilà, donc il faut qu'on arrive à dépasser ça. Et c'est pas gagné d'avance parce que le système en face, il est vraiment... On parlait de répression, de violence policière. Eh bien, ça c'est encore ce qui se passe ici. Ce qui se passe sur le continent, c'est grave. On a vu ce que l'armée française a fait en Centrafrique. Des viols sur mineurs. Et on parle d'une armée qui va pour délivrer les gens. Ça n'a pas de sens. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais bon...
Vas-y.
Non, c'est que Martial, il a dit, en tout cas, c'est vrai, mais l'Europe, il doit nous laisser avec ce qu'on a. Si on nous laissait avec tout ce qu'on a, on vient pas là. Mmh. Pour ce qui nous arrive, ça nous arrive pas, jamais. C'est nous, en Afrique, on est nobles. Noble sur les terres, on a tout qu'il faut.
Si seulement c'était pas régulièrement pillé, quoi, c'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Si on laissait les gens s'auto-gérer et résoudre leurs problèmes comme il se doit et vendre leurs matières premières à des prix qu'ils voudraient, parce que quand on commence à le faire, on a vu ce qui est arrivé à Kadhafi. C'est pas un modèle de démocrate, mais on a vu ce qui lui est arrivé juste parce qu'il voulait une vraie indépendance pour son pays et pour l'Afrique en général. Et voilà, c'est Sarkozy qui a allé bombarder. Et on voit aujourd'hui les gens qui... Il y avait plein d'Africains qui vivaient en Libye qui aujourd'hui viennent en Europe. Et après, on ferme les frontières et on dit « on veut pas de vous ». Mais non, on viendra de gré ou de force, les gens viendront. Tant que ça ne va pas... tant que les choses ne vont pas s'améliorer, tant que les rapports ne vont pas changer, les gens y vont. Après, les gens sont libres aussi d'aller où ils veulent. On ne peut pas reprocher aux gens de chercher à mieux être.
Juste, je voulais rajouter, c'est l'immigration illégale, elle a commencé en 1492. Parce que là, ils nous disent, voilà, vous venez, vous êtes illégaux, vous êtes sans papier. Mais en fait, l'immigration illégale, elle a commencé quand ils ont posé les pieds en Amérique latine, en 1492.
Ben voilà, quand ils sont venus en Afrique, il n'y avait pas de visa, donc bon, maintenant faire le chemin inverse. Et encore, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que les gens prennent la voie illégale parce qu'il y a des gens qui déboursent énormément d'argent pour prendre cette voie illégale. Mais pourquoi ils ne le font pas dans la voie normale? Parce que tout est fermé, il n'y a... Pour venir, quand des Occidentaux viennent en Afrique, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas cette réciprocité-là pour faire que... Moi, aujourd'hui, je vis au Burkina Faso. Je ne vois pas ce que je viendrais faire en Europe. Je n'ai rien à faire ici. Donc, je rentre chez moi parce que je sais que je peux aller et revenir. Mais pour des gens qui n'ont aucune possibilité de venir et de faire des allers-retours, ben, ils n'ont d'autre choix que de rester là parce que ben, le système social qui est ici aujourd'hui et qui permet plus ou moins à certains de vivre calmement, ben, on doit tous en profiter parce que les richesses, elles ne viennent pas d'ici. Donc s'il y avait réciprocité dans la délivrance des visas, les gens ne resteraient pas vraiment sur place. La preuve, c'est que le plus grand flux migratoire, il se passe sur le continent. Donc ceux qui viennent ici, ils sont plus ou moins... Je sais pas moi, ils sont obligés, les rescapés, ceux qui ne peuvent rien sur place, ils sont obligés de venir ici.
Ceux qui n'ont vraiment pas le choix, quoi.
Ben voilà.
Le temps file un peu déjà dans cette deuxième émission, on espère avoir plus de temps, mais en tout cas, ben, je voulais justement vous poser une question, parce qu'on trouvait ça hyper intéressant d'avoir la chance un peu d'avoir des militants qui sont passés, qui ont vécu dans différents pays aujourd'hui. Comment cette lutte que vous menez, est-ce que vous arrivez à la mener justement dans les différents pays où vous avez habité à un moment? Ou bien est-ce que c'est compliqué? Enfin, voilà, par exemple, à Hawa, je ne sais pas, est-ce que vous disiez que vous étiez simplement deux à vivre en France? Est-ce que vous avez réussi à mobiliser la famille au Sénégal aussi sur cette question des violences policières en France? Ou bien, enfin voilà, c'était une question un peu comme ça. Comment c'est une force ou une difficulté d'avoir vécu dans différents pays?
Ben, moi, je n'ai jamais allé dans les autres pays. C'est quand j'ai décidé à venir en vacances en France, c'était 2013, oui. Le mai 2013 avec mon fils. Et je suis venue directement au Sénégal et à Rennes, oui. En France. Et voilà. Et depuis ça, je suis là. Et après, quand mon frère est assassiné par la police, je continue à me battre pour avoir justice. Si la justice française, ça existe vraiment, non, les policiers qui sont assassinés mon frère, ils ont droit à commis les assassinats qu'ils ont faits.
Et est-ce que cette lutte, elle a aussi un écho au Sénégal? La lutte, par exemple, pour Babacar? Ou bien c'est difficile et ça se mène plutôt juste en France?
Bon, c'est difficile pour tout le monde, c'est clair, parce qu'il y a des migrants sénégalais, beaucoup qui viennent, qui galèrent comme tout le monde en Europe, partout, en Italie, en Libye et aussi en Espagne, et en France d'ailleurs, et partout. Du coup... les combats, en tout cas, c'est pas facile, mais on est là, on montre qu'on est là, on a la force et on continue à lutter, voilà. Mais l'Europe, il doit faire des choses, quoi, parce que c'est pas normal. Nous, on n'a pas venu ici pour autre chose. Si nous, on n'est jamais dormi d'or, on n'est jamais galéré, on n'est jamais resté sans manger, on a tout qu'il faut. Mais tu viens là, tu dors, pour t'image, même pour avoir à manger, on te donne comme un chien.
Martial, est-ce que tu veux rajouter
quelque chose? Je voulais juste revenir à quelque chose qu'elle disait. En fait, elle est partie du Sénégal pour la France directement. Déjà, être avec le système de prédation qui est exercé sur le continent, être jeune aujourd'hui en Afrique et y vivre, c'est déjà toute une lutte. Et pour des femmes encore, c'est deux fois plus difficile. Donc ça, c'est déjà un premier combat. Et quand on est encore à l'extérieur et voir comment les gens sont maltraités, ça c'est révoltant et il faut que ça change. Et c'est aussi là le moyen, pour moi, l'occasion plutôt de saluer les personnes qui se mobilisent pour aider les autres, parce qu'en tant qu'humains, on est tous responsables les uns des autres. Et ça ne pourrait jamais changer. Cette solidarité-là doit continuer. Après, moi, personnellement, je suis passé... C'est d'ailleurs ce qui m'a encore de plus révolté contre la France-Afrique, c'est que moi, j'ai passé toute ma vie quasiment au Congo. Et mon rêve, c'était vivre, étudier, réussir et tout faire au Congo. Après, j'étais libre de voyager comme je voudrais. Mais mon rêve, c'était celui-là. Mais ce rêve a été brisé quand la France a décidé de réinstaller Sassou Nguesso au pouvoir. Du coup, j'ai dû quitter le Congo. Je suis resté, même après le coup d'État. Et... je suis resté jusqu'à ce que je sois obligé de partir parce que moi-même, ma vie était menacée. Puisqu'avec, on a commencé à lutter sur place pour dire pas de troisième mandat à Sassou. On a créé un mouvement citoyen. Donc, les jeunes sur place, ils se battent. Mais en face, on a toujours ce rapport-là qui fait que parfois, les gens sont obligés de partir. J'ai dû quitter le Congo, j'ai tout laissé, ma famille et tout. Même mes études, j'ai dû abandonner l'université pour aller vivre au Sénégal. Après 3 mois au Sénégal, je suis allé au Burkina où je reste aujourd'hui finalement 3 ans. Et ce que je remarque, c'est que les rapports de la France avec tous ces pays restent le même. C'est un rapport de colonisation, même pas de néocolonialisme, c'est un rapport de colonisation. Quand on imprime le franc CFA en France et qu'on le garde au trésor public français et qu'on le reverse aux gens à un pourcentage de 40 ou 50%, c'est de la colonisation. Et ça, on veut que ça change. Donc, passant par tous ces pays-là, la lutte est la même et les jeunesses se réveillent. C'est là où le problème il est parce que ces jeunes-là qui se révoltent aujourd'hui, tout le monde n'a pas la même capacité de juger la situation comme nous autres. Il y en a qui vont devenir très agressifs. Et après, il ne faut pas qu'on en arrive là justement. Donc dans ces différents pays, les luttes se mènent, que ce soit au niveau local et les mouvements sociaux du continent s'organisent aussi.
Malheureusement, le temps file un peu. Peut-être une dernière petite intervention, si quelqu'un a envie de dire un mot de la fin par rapport à cette table ronde. Et puis ensuite, on rendra l'antenne. Voilà.
Je voulais juste en profiter pour faire un appel pour le collectif Justice et Vérité pour Babacar. S'il y a des collectifs au Sénégal, de musiciens, d'autres personnes qui s'organisent, qui pourraient faire quelque chose sur place, je pense que ce serait bien qu'il y ait un relais sur place.
Mon but aussi, c'est pour ouvrir les yeux de nous, les Africaines, parce que la plupart de nous, que ce soit noir ou arabe ou rome, on nous tue facilement comme des mouches. Et moi, ce qui m'est arrivé avec aussi nos dirigeants qui sont soit acceptés par la France, que par rapport le consulat qui de Sénégal qui est venu me voir, qui me fait quoi à faire tout, et du coup au final il a rien à faire, il fait rien de tout jusqu'à mon retour en France, que dans mon dos quand je suis partie, il a lancé mes sens tous les Sénégalais que personne ne faut pas aller dans les rassemblements de Babacar. Je me pose question, à quoi il a peur? Est-ce qu'on l'a accepté ou est-ce qu'il a peur?
Maintenant, on écoute les brèves, puis l'agenda. Pour commencer ces brèves, un retour sur la situation au Rojava. Alors le 8 octobre dernier, Donald Trump a annoncé le retrait des troupes américaines du Rojava, qui est un territoire autonome kurde en Syrie, et ce qui a laissé la porte ouverte à Erdogan, le président turc, pour lancer une offensive militaire sur ce territoire. Donc en réaction, l'association AYAK ainsi que de nombreuses autres organisations grenobloises ont appelé à des manifestations. Nous allons maintenant écouter un montage réalisé suite à la manifestation qui a eu lieu le 12 octobre dernier à Grenoble. Malheureusement, on ne peut pas dire que depuis, la situation se soit améliorée. On écoute.
Moi, moi je suis kurde. Je pense qu'il est nécessaire que la population se soulève, puisque le régime d'Erdogan bombarde avec des armes chimiques la population kurde au Rojava, c'est le nord de la Syrie, et il faut absolument stopper Erdogan. On a des contacts avec la population, mais c'est très délicat. Maintenant, toutes les ONG ont retiré les médecins, tous les services qu'ils avaient mis en place là-bas, parce que les hôpitaux aussi sont bombardés. C'est des morts dans tous les sens, des enfants, des familles. C'est pas que les militaires, c'est vraiment sur la population, les civils. Hier, les Américains, ils ont proposé un cessez-le-feu à la Turquie. Et normalement, ça devait prendre effet dès ce matin. Mais malgré le cessez-le-feu, ça continue toujours. Il faut stopper ça. Il faut que ça se calme. Il faut que les civils soient en sécurité. Les moyens, c'est la pression des communautés internationales. Il faut qu'ils mettent des sanctions importantes sur Erdogan, des sanctions économiques, des sanctions politiques pour l'arrêter.
Marie-Bonne Mathéou, coprésidente de l'association AYAK, association iséroise des Amis des Kurdes, qui se bat depuis 2009 pour la reconnaissance des droits des Kurdes, notamment en Turquie et actuellement en Syrie. Mercredi 9 octobre, le président américain Trump a annoncé qu'il retirait ses troupes. C'est à donner le feu vert à Erdogan pour qu'il attaque le nord de la Syrie, le Rojava, qui est géré en grande partie par les Kurdes, mais aussi par toutes les minorités, toute la population, les femmes. Voilà, donc il faut que cette guerre cesse immédiatement. La France a les moyens de faire des pressions sur la Turquie, notamment en rappelant l'ambassadeur français en Turquie, en arrêtant la vente des armes, en prenant des sanctions économiques, en demandant à ce que la Turquie soit retirée de l'OTAN, parce que là, avec l'OTAN, ils peuvent bombarder avec des avions. S'ils n'ont pas la couverture de l'OTAN, ils ne peuvent plus bombarder avec des avions. Donc on peut faire immédiatement des actions positives pour arrêter cette guerre. La Turquie veut éradiquer les Kurdes, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire que leur souhait, c'est que les Kurdes partent le plus loin possible pour qu'ils récupèrent le territoire du Kurdistan afin de s'approprier d'une part les territoires et d'autre part toutes les richesses du Kurdistan. La politique qui a été mise en place au Rojava est une politique offensive, c'est-à-dire démocratique, féministe, écologique. Et donc, pour le monde entier, c'était un espoir de voir enfin un peuple qui gérait ses affaires lui-même dans la démocratie et dans la paix. C'était un peuple en paix. Et donc, tout le monde est concerné par ce qui se passe. Les Kurdes sont ceux qui se sont battus contre Daesh. Ils ont des prisonniers de Daesh, 10 000 prisonniers qui commencent à fuir grâce à la guerre, qui vont reconstituer des poches de terrorisme, et tous les démocrates français devraient se manifester en solidarité avec nos alliés kurdes.
Dans l'agenda cette semaine et plus, les événements d'abord. Samedi 9 novembre 2019, appel à mobilisation générale pour la ligne Grenoble-Gap, défense du train Grenoble-Venne-Gap. L'association pour la promotion de la ligne Grenoble-Venne milite pour le maintien et l'amélioration de la ligne de train Grenoble-Venne depuis 1978. Aux élus, syndicats, associations et habitants des Hautes-Alpes et du Sud-Isère, face au bras de fer engagé avec l'État et SNCF Réseau pour la survie de la ligne Grenoble-Gap, le collectif de l'Étoile ferroviaire de Venne, réuni en AG le 5 octobre dernier, appelle à une action de grande ampleur. Une chaîne humaine des ronds-points de Grenoble à Gap, samedi 9 novembre, à partir de midi. Toutes les infos sont sur le site du collectif de l'Étoile ferroviaire de Venne. le samedi 9 novembre toujours, à Grenoble, 6h pour le peuple iranien, de 14h30 à 21h à la MDH Chaurier-Berry à Grenoble, 10 rue Le Châtelier, tram A et B, arrêt Saint-Bruno. Organisé par Iran Solidarité, la Ligue pour la défense des droits de l'homme en Iran, le Centre d'information interpeuple et la Ligue des droits de l'homme Grenoble Métropole. De l'Empire perse 500 ans avant Jésus-Christ à l'Iran du XXe siècle et l'avènement du régime de la République islamique, où en sont et où vont les Iraniennes aujourd'hui ? 14h30, accueil et présentation de la journée par les organisateurs. Et toute l'après-midi, des conférences, des projections, des rencontres. 18h45, un débat. 19h15, un repas iranien. La participation aux frais est libre. Un RIC contre la démolition de logements sociaux de l'Arlequin, vous en avez entendu parler. Samedi 16 novembre, de 10h à 13h, un compte-rendu public est proposé par les organisateurs de ce référendum d'initiative citoyenne. C'est à Grenoble, marché de la Villeneuve.
Voilà, c'était l'agenda et on peut y rajouter que le samedi 23 novembre, il y aura une manifestation à Grenoble contre les violences sexistes et sexuelles. Ce sera à partir de 16h. On n'a pas encore le lieu de rendez-vous, mais vous pourrez bientôt trouver plus d'informations sur Internet. Alors, c'est fini pour Micro-Ondes aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir pris la parole pour vos témoignages. Et
merci à vous.
Ça va nous donner de la force ou en tout cas de la colère. De la colère, c'est déjà sûr, mais de la force aussi pour toutes nos luttes.
On est tous ensemble.
Oui, on est ensemble. Et voilà, c'est donc le moment de rendre l'antenne. Une belle journée d'échange à BAF les frontières, du coup, la semaine dernière, samedi 2 novembre à la BAF. Encore merci.
Merci à vous.
Merci.